Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Marc-André. Comment ça va, Marc-André?
Yes, ça va bien, et toi?
Ça va très bien, merci. Là, l'oseille n'est pas là, il ne répond pas à nos messages. Marco non plus. On est là sur dépourvu. C'est quoi cette affaire-là?
C'est quoi cette affaire-là?
On ne reste pas en début de podcast. Il y a quelqu'un qui nous laisse jamais tomber, puis c'est dualité. Merci beaucoup.
Ah, yes, sir.
On est vraiment là, très content que tu nous aies fait ce beat-là. Puis, gros shout-out à toi, dualité.
Yes.
Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Marc-André, pour les réseaux sociaux, y a-tu du nouveau ou on est encore.
Un petit peu moins de nouveaux followers cette semaine, mais quand même, allez nous écouter, allez voir nos vidéos. Je mets des extraits du podcast, je mets nos assistants bêtes à chaque jour de match. Cette semaine, jeudi et lundi ont été de très bons vidéos de bêtes, mais dimanche, ça a été un petit peu plus dur. Il y a certaines games off script que je ne m'attendais pas du tout, fait que ça a été un peu moins bon. Dimanche, je finis 50-50. Fait que je finis 7-7, 7 bonnes prédictions, 7 mauvaises. Mais jeudi puis lundi, je suis 4-5 les deux. Fait qu'au final, dans la semaine, on rentre dans notre argent. Mais dimanche, ça a été un peu plus difficile. Mais, fait qu'allez nous suivre l'Assistant Coach Podcast sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Allez nous suivre là-dessus. Petit shout-out sur YouTube. Hello, nouveau follower. Instagram, Nipso, puis Abdek LKD sur TikTok, Christopher Brosso, Pierre-Alexandre Nadeau, Geoffrey Rivet et Patrick Lagacé qui nous ont commencé à nous suivre. Je ne sais pas si c'est le Patrick Lagacé du 98.5 FM. Si oui, on est prêt à collaborer à ton émission, Patrick. Sinon, on est content que tu sois là quand même.
Oui, on est ouvert à l'opportunité. Hein. Si jamais c'est toi, tu nous le dis. Mais tu sais, garde, c'est donnant-donnant. Hein. Si on te visite, tu nous visites aussi.
Voilà, c'est ça.
Ça marche dans les deux sens.
Voilà.
Dans le fond, là, on est vraiment choyé, je trouve, depuis plusieurs semaines. Il y a du football qui ressemble à l'éliminatoire. Des équipes qui sont devant le fait doivent absolument gagner.
Oh,
on voit qu'ils ont vraiment levé le jeu d'un cran. Les erreurs, là, des fois, se corrigent durant un match. On voit qu'ils ont appris aussi de leurs erreurs. Puis même si le match commence mal, ils réussissent à trouver des solutions pour bien finir. Je pense d'ailleurs aux Bills en disant ça. Où est-ce qu'ils ont commencé un match? Mm-hmm. Là, tu peux peut-être en parler dans ton segment rafale. Ils perdent 21-0.
C'est incroyable.
Ils perdent 24-3. Puis ils trouvent une façon de gagner ce match-là. Mm. Incroyable. Il y a beaucoup d'équipes qui ont dit « OK, là, c'est vraiment le temps de prendre ça au sérieux. » Puis on voit la machine qui part. Mais il y a d'autres machines qui brisent, comme les Bucks qui perdent contre les Falcons.
Ça, c'est incroyable.
Donc, puis de cette façon-là,
les Falcons
sont revenus de l'arrière.
Mm-hmm.
Les Falcons, les deux derniers touchés, ils sont allés par 2 points, puis ils ne l'ont pas eu. Ils voulaient perdre ce match-là. Ça aurait pu être une victoire là, plus grande que juste par 1 point. Puis les Falcons, quand même, trouvent la façon de gagner sur un botté à la fin contre les Bucks. Donc, il y avait beaucoup d'équipes qu'on tenait en haute estime, qui ont perdu, puis d'autres qu'on voyait gagner, mais qui ont gagné de façon non prévue. Fait qu'avant qu'on aille plus loin dans l'analyse, là, puis que je parle un peu d'équipe, puis que je lance des flèches comme ça, vas-y avec ton segment en rafale tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la NFL semaine 15, Marc?
Yes, donne-moi 2 petites secondes. Donc, le match du soir, t'en as parlé rapidement, les Falcons qui battent les Buccaneers qui menaient par 14 points. Tu sais, les Buccaneers, on leur a souvent donné l'excuse des blessés cette année. Mais là, tous les blessés sont venus. Le Godwin jouait, Mike Evans a une game à haute 100 verges, Bucky Irving était là. T'as aucune raison de perdre contre les Falcons à domicile. À ce moment-là, là, les Buccaneers sont rendus quoi? 3-4 défaites à leurs 5 derniers matchs, quelque chose, 3 défaites dans la ligne, 4-5, je pense quelque chose comme ça. Après avoir eu des talks sur Baker Mayfield, sur MVP en début de saison, on n'est plus du tout là. On se demande même si les Buccaneers sont partis pour les éliminatoires. C'est franchement inquiétant ce qui se passe là parce que ce match-là, t'as aucune excuse.
Il y a quelques semaines, tu riais de moi quand je disais que les Panthers pourraient talonner les Buccaneers. Toi et l'Osé, vous le voyez pas. Les Bucks sont chanceux. C'est quand même environ 5-6 semaines que je t'en parle, que je les trouve pas si hot. Je vous ai même callé, même si Bucky Irving revient, ça ne veut pas dire qu'il va gagner et qu'il va avoir des gros matchs.
Absolument.
Et comme de fait, ça fait 3 semaines que même s'il est revenu, les performances sont au rendez-vous. C'est très, très, très inquiétant si je prends des box.
Absolument. On va voir, c'est clairement la division la plus faible de la NFL. On en parlera dans les matchs de la semaine prochaine, mais ça reste que ces deux équipes-là s'affrontent 2 fois dans les 3 dernières semaines. C'est là que ça va jouer. Mais ça reste que c'est très, très inquiétant pour les Buccaneers. Match du dimanche, les Bears qui éclatent les Browns 31-3 après une performance étincelante de Shutter la semaine dernière. Il n'a pas réussi à répéter contre les Bears. Les Bears qui continuent leur excellente séquence malgré leur défaite contre les Packers. C'est vraiment impressionnant, les Bears, là, pour vrai, ce qu'ils sont en train de faire. Et le match contre les Packers de cette semaine va être probablement décider du gagnant de la division. Mais les Bears ont de bonnes chances de participer aux éliminatoires là, actuellement. Puis c'est vraiment impressionnant ce que cette équipe-là est capable de faire cette année. Mettre 31 points sur la def des Browns, c'est vraiment, vraiment une grosse performance.
Oui.
Ravens et Bengals 24-0. Je vous avoue que ça, c'est quand je parlais de match off-script, je ne l'avais pas vu venir. Ça 24-0 là. Les Ravens avaient une chance de gagner ce match-là, mais ils ont accordé 0 points à Joe Burrow et aux Bengals. Je suis vraiment impressionné.
Il y a quelques semaines, ils ont fait surprendre les Bengals. Ils ont battu les Ravens. Ouais. Donc, les Ravens gagnent. C'était un peu à prévoir le retour du balancier. Mais un blowout comme ça. Puis Joe Burrow encore lance une mauvaise passe qui est interceptée directement dans les mains du défenseur, même pas proche. Donc, encore une autre clap au cerveau 2 semaines de suite. Est-ce que c'est un appel à l'aide pour être échangé puis être allé ailleurs saison prochaine? Qui sait, peut-être. Hein?
Mais tu sais, il y a eu un commentaire là, où il disait « J'ai plus de fun, je sais pas trop ce que ça donne. » Fait que je sais pas. Ça risque.
Ouais.
C'est... Quand il est en santé, Joe Burrow, pour moi, c'est un des 3 ou 4 meilleurs QB de la NFL. Mais ça marche pas aux Bengals. C'est plate, mais ça marche pas. Trop de hauts salariés, pas de O-line, pas de défensive, ça fonctionne juste pas. Cars Texans, la logique a été respectée dans ce match-là. Les Texans l'emportent 40-20. La surprise, c'est qu'il y a eu autant de points que ça de marqués dans le match. Les Cars ont quand même réussi à mettre 20 points. Puis l'attaque des Texans, qui était chancelante depuis le début de la saison, connaît clairement son meilleur match, mais 40 points sur le tableau. Les Texans sont excessivement dangereux et vraiment à prendre au sérieux dans la AFC.
C'est la première fois qu'ils le font, là, un match de 40 points cette saison. Même des fois, des matchs en haut de 30 points, là, il y en a, c'est le deuxième seulement. Là,
ouais, c'est ça.
Deux matchs dans la vingtaine, même dans les dizaines de points.
Ouais.
Donc, marquer autant de points, ça, c'est un gros wake-up call pour les autres équipes de la IFC.
Vraiment, 100%. Dans le même ordre d'idée, dans cette même division-là, qu'ils vont probablement s'arracher l'un et l'autre d'ici les 3 prochaines semaines, les Jaguars qui mettent 48 points contre les Jets, l'emportent 48-20. Trevor Lawrence a eu un des meilleurs matchs de l'histoire de la NFL. Là. 5 passes de toucher, genre 400 quelques verges. C'est vraiment débile là, le match que Trevor Lawrence a eu. J'ai de la misère à me prononcer sur les Jaguars. Je ne sais pas trop. Ils sont vraiment impressionnants depuis au moins 6 à 7 semaines. Mais c'est comme si j'ai de la misère à croire en cette équipe-là. Mais il faut quand même les prendre au sérieux là, parce qu'ils réussissent à gagner semaine après semaine. Ils mènent des chiffres sur le tableau. Fait que c'est une équipe à prendre au sérieux dans la AFC. On n'a pas le choix. Chargers qui mettent officiellement fin à la saison des Chiefs et de Patrick Mahomes. C'est triste pour Mahomes qui s'est déchiré le ACL. Qui sera
c'est triste pour Mahomes, mais pour tout le Chiefs Kingdom.
Ah oui, c'est
pas juste pour l'homme qui s'est blessé, c'est des fans qui, là, ils ont non seulement sont éliminés, mais en plus, ils risquent de manquer début de la saison. Ça va faire mal, malheureusement.
Même s'il arrive pour le match 1, ça reste qu'il va quand même manquer tous les tryouts dans l'été, il va manquer toutes les pre-season. Puis probablement qu'il va manquer des matchs en début de saison. Fait que les Chiefs, non seulement sont éliminés cette année, mais il y a déjà des red flags pour l'année prochaine. On ne sait pas si Kelsey va rester. Puis malgré tout, les Chargers qui trouvent une façon de gagner, c'est pas une équipe élégante. C'est pas une équipe qui est remplie de highlights, mais ça reste que c'est une équipe qui trouve presque à chaque semaine une façon de gagner dans une division qui n'est pas facile.
Ouais,
c'est toujours tendu. Je ne sais pas ce que ça va donner en éliminatoire, mais les Chargers vont participer aux éliminatoires. Puis rendu là, on ne sait jamais ce qui va arriver.
On verra.
Exact. Bills Patriots. Les Bills, après avoir perdu 21-0 et 24-3, l'emportent 35-31 avec Josh Allen. Quand Josh Allen décide de jouer comme il le fait depuis 2 semaines, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens dans la NFL qui sont capables de battre ce gars-là. Il est capable de tout faire sur un terrain. Quand il joue comme ça, pour vrai, on ne fera pas de power ranking aujourd'hui, mais si Josh Allen joue comme il joue, on n'a pas le choix de mettre les Bills numéro 1 dans la AFC là, parce qu'il est incroyable, Josh Allen, quand il joue comme ça.
Pour moi, ils sont peut-être 4e. Si j'avais à faire un power ranking, parce qu'on s'en est parlé au téléphone ce matin, je les aurais mis 4e parce que je mettrais quand même les Patriots 3e. Broncos 1er.
Broncos Texans probablement 1.
Mais là, l'exemple 2e à cause de l'affiche. Mais pour moi, les Bills, c'est un gros plus parce que ça fait deux matchs de suite. Mais c'est que, oui, c'est impressionnant, revenir de l'arrière, mais commence donc en force, piétine donc l'adversaire.
C'est ça. Oh,
pourquoi
ouais.
C'est des remontées qui auraient pu mal finir? Parce que 100%. Malgré le fait qu'il joue bien, des fois, le revenir de 21-0, ça peut être plus difficile en éliminatoire quand c'est stressant.
Contre les Broncos ou contre les Texans, tu remonteras pas de 21 points contre la dev des Broncos puis la dev des Texans.
Non, fait, ça reste inquiétant pour moi pour les Bills.
Oui, je suis d'accord.
Inspirant. Pour les Bills,
oui.
Gagne.
Mais il y a des red flags.
Et Mathieu Rivaux de division, mais des red flags contre les Broncos puis contre les Texans, contre deux bonnes défensives comme ça. Patriots, c'est une bonne défensive, mais c'est pas élite comme celle 100%. Des Texans puis des Broncos.
100%. Commanders-Giants, c'est un match qui se voulait pour le premier show overall l'année prochaine. Les Commanders l'abordent 29 à 21.
Les Giants qui veulent perdre depuis
plusieurs semaines. Les Giants qui veulent perdre depuis plusieurs semaines. Les Commanders ont décidé de bencher Jaden Daniels pour le restant de l'année. Deux équipes qui s'en vont nulle part. J'ai rien d'autre à
ajouter aussi, là-dessus.
Oui, ouais, exactement. Ouais. Ouais, vraiment. Les Eagles l'emportent facilement 31-0, se remettent tranquillement sur la track et confirment pratiquement là, leur titre de division. C'était un peu up in the air là, dernièrement, vu que les Cowboys jouent un peu mieux et que les Eagles jouent un petit peu moins bien. Mais avec cette victoire-là convaincante, les Eagles seront des éliminatoires. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire rendu là, mais seront des éliminatoires. Et les Raiders ont de sérieuses questions à se poser. Ouais, parce
ça
que
reste les Raiders.
Ça
ne
s'en
moi, ça
va
me rassure pas.
Nulle part. Non, je ne suis pas rassuré pour les Eagles, mais ça reste que ça leur confirme le titre de division. C'est pas mathématiquement fait, mais dans
ça,
les
ça enlève la pression.
Ça. Exactement. Packers-Broncos, un excellent match de football.
Ah, quel beau match.
Les Broncos, l'attaque a été vraiment performante des Broncos. Bravo à eux. Ils ont dominé la ligne de mêlée. Ils n'ont pas permis à Jordan Love d'orchestrer une remontée. Leur ligne défensive a été vraiment bonne. Fait que chapeau aux Broncos qui l'emportent 34 à 26. La semaine passée dans le podcast, je disais que j'attendais au match de cette semaine pour voir où je les situais clairement, où exactement les Broncos. Mais clairement, les Broncos vont finir premier de la conférence. Ça va passer par Denver, vont avoir le bye week. Honnêtement, ils vont être durs à battre les Broncos dans la AFC. Ça regarde vraiment bien pour eux.
Puis, les Broncos ont joué un match inspirant au sol, par la passe et en défensive.
Oh, oui,
les Packers ont tenu leur bout. C'est pas inquiétant pour les Packers de perdre par 8 points. Ils ont quand même resté dans le match, mais étaient toujours un peu en arrière par rapport aux Broncos. Bonix, 4 passes de toucher, était vraiment inspirant. A tellement bien couru pour s'échapper de la pression.
Vraiment.
Ça a été vraiment inspirant pour les Broncos parce que ça faisait longtemps que l'attaque n'avait pas dominé autant. Ils gagnaient grâce à la défensive. Puis pour les Broncos, ben tant mieux. Là. Si tu piques en décembre, c'est le moment. Là, avant les éliminatoires,
tu
arrives en confiance. Puis watch out, hein, parce qu'on pensait que ça allait être un match facile, là, deuxième tour, même s'il y avait le premier, le bail pour la AFC.
Ouais, mais non, ça va être à surveiller. Puis tu sais, les Packers, non, c'est pas une défaite qui est nécessairement inquiétante parce que tu as été dans le match contre une des meilleures équipes de la NFL tout le long. Ce qui est inquiétant, c'est que tu perds Michael Parsons, Christian Watson et ton garde à droite, les trois qui sont blessés. Parsons, c'est sûr qu'il est out pour le reste de l'année. Les deux autres, on n'a pas encore de confirmation là, à long terme. Mais c'est plus ces trois blessures-là qui font mal pour les Packers que la défaite parce que les Packers, qui pouvaient peut-être être un contender pour se rendre au Super Bowl dans la NFC, je les vois plus tant là, battre les Rams, je les vois plus tant battre les 49ers, peut-être même pas les Seahawks, puis même les Bears, là, je sais même pas. Non, mais c'est ça. Tu sais, même les Bears, je sais même pas s'ils vont être capables de battre les Bears, les Packers sans ces trois joueurs-là. Fait que voilà, c'est plus ça qui est inquiétant pour eux.
Mais des fois, je te le dis, hein, moi, je suis fan des joueurs qu'on connaît pas encore. Tu sais, quelqu'un qui est sur le practice squad, qui a faim,
qui, arrive, ouais,
qui est
ça.
En santé, qui a les jambes fraîches, puis il veut prouver qu'il y a une place comme starter, ça peut faire mal. Il y a toujours des belles découvertes. Fait que je sais qu'ils perdent des joueurs établis, des bons piliers, mais il faut laisser la chance aux recrues qui attendent ce moment-là avec grande conviction. Puis des fois, ça marche. Là, fait que faut...
Ouais.
C'est remplaçable un joueur, mais est-ce qu'ils vont être capables de le remplacer? Par qui?
On verra. Voilà. Parlant de cette conférence-là, Lyon-Rams, les Lyons qui ont connu une excellente première mi-temps, mais tout s'écroule. Je pense que Dan Campbell s'est fait servir une leçon de coaching par Sean McVay. Sean McVay, il est incroyable. On s'entend qu'il y a les chevaux, là, mais les Lyons aussi ont les chevaux. Puis les Rams ont gagné 41 à 34. Et les Rams, avec cette victoire-là, conservent encore leur premier rang dans la NFC, s'assurent d'une participation aux éliminatoires. Et les Lions, ça va prendre là, un alignement des étoiles là, pour que les Lions participent aux éliminatoires. Parce que là, ça commence à être compliqué. Malgré leur bonne fiche, ça commence à être compliqué pour que les Lions participent aux éliminatoires.
Là, faut que tu parles de la jeune sensation, là, la jeune recrue, le corps des Saints. Là. Ouais. Trois victoires de suite pour les Saints.
Trois victoires de suite, ça leur enlève probablement leur premier choix overall, c'est n'importe quoi. God. Puis, tu sais, on l'a dit, cette division-là, c'est la plus faible de la NFL. Les Saints, ça va battre les Buccaneers la semaine passée, battre les Panthers cette semaine. Les deux équipes qui sont supposées se battre pour le titre de la division, c'est n'importe quoi, cette division-là.
Les Saints qui étaient bons derniers.
Ouais.
Là, maintenant, dépassent les Giants. Ouais. Les Giants vont s'assurer du premier choix, j'imagine.
Ben, il y a les Raiders aussi à deux victoires. Là. Ça va jouer entre les Raiders et les Giants. Mais c'est à n'y rien comprendre, là, cette division-là. C'est qui perd, gagne. Là. C'est un peu ça, là. Mais c'est un peu n'importe quoi. Les Panthers, même chose. Des gros highlights, des grosses déceptions. C'est vraiment une équipe en montagne russe.
Ouais.
Je ne sais pas à quoi m'attendre de cette division-là. À chaque semaine, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Fait que c'est vraiment... Je suis comme un peu sans mots.
Puis pour les Saints, c'est inspirant, dans le fond. Là, tu sais, quand même, dans
tu,
une
tu mets quand même des...
Mettre des victoires, puis être compétitif, c'est vraiment inspirant pour eux pour dire « Ah, ben on a un projet ». Peut-être que l'an prochain, il
faudrait
pas nous surprendre si les Saints commencent bien l'année prochaine.
Je suis d'accord.
Ils peaufinent un peu leur alignement. Ouais. On était très critiques, en fait, l'osé beaucoup très critique sur les Saints qui diraient qu'ils ne joueraient même pas dans CFL. Mais les Saints sont quand même discrets, puis c'est à leur avantage.
Oui.
Ils n'ont pas trop de pression médiatique. Puis ils prennent le temps de se développer. Puis si les propriétaires sont patients, puis le GM aussi, il y a peut-être un beau projet en perspective pour les Saints dans les années à venir.
100%
ça reste d'accord. À surveiller.
Oui, ça reste à surveiller. Je suis d'accord.
Oui.
Les Seahawks l'emportent de peine et de misère sur un field goal à la dernière seconde contre grand-papa, papy, Philip Rivers.
Aïe, aïe, aïe.
Pour vrai, ce match-là m'inquiète un peu pour les Seahawks. De façon très honnête et très transparente, là, comme... Tu sais, on en parlait la semaine passée que les Seahawks étaient un peu comme en cruise control, ils gagnent tout le temps par 20 points, puis tout va bien aller. Puis là,
non, mais...
Je comprends que les Colts, ça reste une bonne équipe qui a eu un bon début de saison, mais pour vrai, j'ai pas vu le match.
Colts, mais André, j'ai vu un peu le match, mais tu sais, les Colts, ils courent quand même bien avec la balle.
Oui.
Philip Rivers n'a pas beaucoup passé. Ils ont vraiment essayé de contrôler le temps de possession. Fait que si t'as pas beaucoup de possession, si dans le fond, ça joue beaucoup au sol, ça va être un match tendu, mais la dev des Colts, c'est bonne. Faut arrêter de dénigrer la dev des Colts. Puis les Seahawks, qu'est-ce qui les aide? C'est la bonne défensive aussi, puis le jeu au sol. Fait quand tu as des forces qui s'équilibrent, ça va faire des matchs extrêmement serrés. Puis les Seahawks ont eu de l'opportunisme à la fin, puis ont gagné le match. Fait que c'est à leur honneur. Moi, ça ne m'inquiète pas parce que j'ai affronté une équipe qui a un peu les mêmes caractéristiques qu'eux.
J'aime ton analyse.
Donc, c'est pas toujours que les éléments comme les Seahawks. Fait moi, ça ne m'inquiète pas du tout. L'important, c'est peu importe la façon, c'est la victoire. Tu as de l'affiche égale aux Rams.
Ça se joue jeudi soir, c'est là que ça se joue. Ouais.
Ça va être tendu tout ça.
Ouais, ça va être tendu. Titan 49ers, les 49ers qui l'emportent 37 à 24. C'est des gros scores, mais c'est rien d'inquiétant pour les 49ers qui continuent à bien performer. Brock Purdy a super bien géré le match. Ça a vraiment été un petit match pour les 49ers. Les Titans sont
un petit feel good. Hein?
Oh, un petit feel good, exactement. On parlait des équipes à deux victoires. Les Titans aussi sont toujours dans la course pour le premier rang repêchage. Ouais. Dimanche soir, un match qu'on avait tous vu venir. Hein, une performance de 400 verges de JJ McCarthy. On avait tous vu venir ça.
L'Osé l'adore. Là. C'est son nouveau. Il s'est acheté un jersey là, de JJ.
Oui, exactement. Donc, les Vikings l'emportent 34 à 26 contre les Cowboys. Les Cowboys qui avaient une chance en or depuis deux semaines de remonter dans la division, mais la défensive s'est complètement écroulée dans les deux dernières semaines. C'est terminé pour les Cowboys. Les Vikings, je ne sais pas trop quoi penser de ça. Ça fait quand même deux victoires de suite pour eux. Deux bonnes performances de suite de JJ McCarthy. Ils ont des armes. Ils ont une équipe qui se peut, les Vikings. La preuve, c'est qu'ils ont fini avec quoi? 12 ou 13 victoires l'année passée. Mais si JJ McCarthy est capable de jouer comme ça l'année prochaine, les Vikings seront peut-être à considérer. J'ai hâte de voir le chemin qu'il va être capable de faire avec Kevin O'Connell durant l'off-season, de voir comment ils vont revenir l'année prochaine.
Puis, tu sais, la statistique aussi par rapport aux Vikings, qu'il ne faut juste pas dénigrer aussi, c'est que l'année passée, puis il y a deux ans, ils ont gagné beaucoup, beaucoup de matchs à moins d'une possession.
Par une possession,
Et ces matchs-là, c'est des matchs qui sont vraiment qui peuvent flip à pas grand-chose. Mm-hmm. Des fois, c'est un manque d'opportunisme. Des fois, c'est une mauvaise décision de coaching à un moment précis dans le match qui fait que ça bascule. Un fumble, tu sais, une interception, des revirements. Fait que, tu sais, quand tout va à ton sens pendant une saison, tu es 11-0 dans ces matchs-là, ben il y a un petit retour de l'ascenseur. Puis les Chiefs ont vécu aussi cette année.
Absolument.
L'an passé aussi, était comme largement avec une fiche victorieuse. je pourrais pas dire exactement laquelle, mais je rappelle que les Vikings étaient 11-0 par contre dans les matchs
100%,
à
moitié de position. Ouais.
Donc il y a un retour d'ascenseur, mais les Vikings, oublie pas que peut-être que JJ McCarthy, il est pas bon en ce moment, peut-être qu'il n'y a pas des bonnes performances, mais ça reste que c'est un corps qui est extrêmement jeune. 100%. Et je parle de patience. Jordan Love, première année, toi Marc-André, t'étais comme oh boy, ça va être difficile, mais rendu à sa troisième puis quatrième année, même s'il était backup, il y a eu des reps, il s'est préparé, il comprend plus la NFL. Faut laisser une chance au kid. Je suis pas prêt à sacrifier Boss première saison. Il est pas bon, mais il est jeune, puis il n'a pas beaucoup joué au college aussi à cause de la COVID. Fait que je suis comme, tu sais, soyons pas trop tough sur le kid. À date, il montre des beaux flashs. Fait que c'est juste une question de constance, mais il n'y a personne de constant. Check les Cowboys, il en échappe deux de suite.
Ah oui,
alors
ben
que Dak Prescott est tout feu tout flamme, puis tu parlais de lui comme MVP de trois semaines.
Ça,
maintenant,
raison.
On est loin de là.
Ouais, on est 100%. Un peu comme Baker, que ça a été gros hype, puis ça a crashé. Ben, un peu
faut
le
faire
principe.
Attention hein, avec les tangentes
t'as
à
raison.
Court terme. Là. Faut vraiment faire attention avec
100%
ça.
100% raison.
Puis le match que j'avais pas vu venir aussi, en plus, TJ Watt, tu sais, qui raconte que
hospitalisé.
C'est un JJ.
Eh oui.
Tu sais, dans le fond, en fait
TJ hospitalisé, puis
JJ
raconte.
Watt,
ouais, c'est
que
ça.
TJ il a raconté ça en onde, que sinon, on ne le savait pas, qu'il s'est, à cause d'un traitement au poumon, un peu comme, je pense, Tyrod Taylor s'était fait l'autre fois, tu sais, une espèce de.
Oui, performant, ouais, c'est
un
ça.
Poumon.
Ouais.
Fait que là, il y a un poumon perforé. Il a été hospitalisé pour ça parce qu'il y avait comme un malaise à l'entraînement.
C'est fou.
Il y a de la misère
ça.
À respirer, puis c'est comme semi-écroulé au sol. Là, il s'en va à l'hôpital. Fait que là, tu te dis, OK, les Steelers, c'est un peu chancelant, l'attaque va pas très bien. Contre des Dolphins qui ont un jeu au sol incroyable. Puis quelques bons receveurs de passe, c'est comme Waddle puis Tyreek Hill qui peuvent faire des jeux explosifs.
Mm-hmm.
La défensive des Steelers accorde beaucoup de jeux explosifs, surtout en troisième essai. Tout était là pour que ça se passe pas bien.
Puis,
la statistique du troisième
suite,
quart. Les Steelers au troisième quart, ils ont juste au troisième quart 132 verges d'attaque, puis les Dolphins moins 28.
Ah, c'est ça. C'est là que ça s'est joué.
C'était 28-3 avant le garbage time des 7 dernières minutes où les Steelers ont juste fait comme on va les laisser faire. J'en
exact.
Reviens pas. L'Ozé, j'en reviens pas. Steelers l'emporte 28-15.
Écoute, je suis sans commentaire. Salut les gars.
Yes sir.
Le segment en rafale. Laurie, t'as eu un bon moment. Pour une fois, Marc-André n'a pas été coupé.
Il n'y a pas eu de parenthèse.
En effet.
Il n'y a plus de parenthèse. Non, je l'ai coupé.
Ben oui.
T'as-tu oublié dualité?
J'ai pas oublié que t'as pas.
Non.
J'ai même fait un gros chalot à dualité.
Excellent.
J'ai donné du love. Là. C'est Noël. Là.
Voilà.
J'ai fait un beau cadeau avec cette chanson-là. Puis on est très reconnaissant.
Tu
arrives quand même au bon moment là, parce qu'on va parler là, du classement. Puis j'ai quelques petites questions pour vous. Puis Lozé, comme tu n'as pas pu commenter, tu peux nous parler de ce que tu aurais vu par rapport aux équipes pour voir si ça t'inspire confiance ou non. Il y a trois équipes dans la AFC que j'aimerais qu'on parle. Lozé, tu auras le premier mot. Mais avant toute chose, Marc, montre-nous le portrait des éliminatoires.
Yes.
J'aimerais vraiment, dans le fond, là, commencer par t'entendre sur les Broncos qui ont battu les Packers. As-tu vu le match? As-tu une opinion sur les Broncos comme quoi, même s'ils ont eu des matchs atroces où ils gagnaient 10-7 un jeudi soir, maintenant avec Bo Nix qui lance 4 passes de toucher, la défensive qui s'est tightée un petit peu, est-ce que tu trouves qu'ils sont des contenders pour de vrai ou c'est juste une fraude au premier seed de la AFC? Comment tu te sens par rapport aux Broncos?
Ah, c'est à moi que
oui,
c'est
vas-y, l'oser
en premier, vas-y.
Ah, je pensais, parce que quand t'as dit, t'as-tu vu le match, je pensais que tu parlais à Marc.
Non,
je sais qu'il a vu le match.
J'ai pas vu ce match-là. Par contre, ce que j'ai retenu en regardant les statistiques, ça a été le 4 passes de toucher.
Ouais.
Puis si je me trompe pas, aucune interception.
Exactement.
Ça fait changement, mais en même temps, est-ce qu'un match... On peut vraiment comme déclarer ça comme OK, Bo Nix, il a passé le step puis là, il est en mode série ou bien c'est un bon match comme les bons QB peuvent sortir un bon match n'importe quand. Moi, je suis plus du genre à attendre de voir le match de cette semaine. Est-ce qu'il va être capable de répéter, pas faire d'erreur? Est-ce qu'il va être capable de remettre son attaque sur un beat, de scorer plusieurs séquences? Parce que contrairement aux autres games, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que leur défense a moins fait la job. Green Bay ont réussi à scorer sur plusieurs séquences. Fait que c'est comme si les Broncos ont joué un match complètement à l'opposé de tous les autres matchs qu'ils ont joué cette année. La défensive a été moins bonne, l'attaque a été meilleure. Par contre, si je veux, tu sais, si je veux être fair, facile critiquer l'attaque des Broncos toute la saison. Je me suis pas gêné de le faire. Mais quand que ta défensive a une moins bonne performance, mais que ton attaque sort sa meilleure performance, ben c'est des petites recettes pour être peut-être pas championne, mais en tout cas...
Te rendre loin, ouais.
C'est ça, il y a loin, quelque chose, il y a quelque chose là, tu sais. Et au moins là, ils peuvent voir que si jamais leur force, qui est clairement la défensive, si jamais ça fonctionne pas, que leur deuxième force était supposée avec Sean Payton être le jeu au sol, si je me trompe pas, encore là, les statistiques, je les ai vues un peu, là, mais je pense pas qu'ils ont eu un gros match au sol, ça a été vraiment par la passe. Fait que c'est comme leur maillon faible depuis le début de la saison.
Ça se passe pas bien, là.
Non, c'est ça. C'est leur maillon faible depuis le début de la saison par la passe. Puis c'est là qu'ils ont gagné le match. Fait que ça, mettons, si j'étais un fan des Broncos, puis que de semaine en semaine, t'es comme, ouais, c'est pas beau. C'est pas... Mais, Kim, ils ont gagné une game avec leur faiblesse. Ça fait juste montrer qu'ils peuvent gagner n'importe quelle game.
100%.
Puis... dans le fond, Lozé, je vais t'allumer tout de suite parce que tu parles de la prochaine game pour la nommer, c'est contre les Jaguars à domicile. Puis les Jaguars sont 10-4, Broncos sont 12-2. Fait avec ça, soit tu donnes une chance aux Jaguars de te rattraper ou d'autres équipes de te rattraper pour le top seed. Mais c'est un match de playoff carrément. Là. Les Jaguars risquent de faire partie des éliminatoires, soit comme top de la division ou comme wildcard à 10-4. Sortir des éliminatoires.
Si on regarde les probabilités, de 98%, c'est presque. C'est fait.
C'est pas garanti, mais pour moi, c'est garanti. Les équipes vont perdre. C'est pas vrai que tout le monde va win out derrière.
En plus, les Jaguars, ils ont de loin le calendrier le plus facile d'ici la fin de l'année, à part ce match-là. Ils ont un match. Non, ils jouent pas Houston. Ouais, c'est ça. Ils ont un calendrier très facile. Puis, tu sais, je suis pas un fan des Jaguars du tout. Mais là, vu qu'on en parle, tu sais, ça, c'est un autre. Très grand hater, mais pas un hater, mais je critique facilement Trevor Lawrence depuis qu'il est rentré dans la ligue. C'était supposé être le next big one. C'était probablement le QB recru avec le plus d'attente depuis.
Ouais, beaucoup d'engouement.
Peyton Manning, comme c'est quelque chose de vraiment huge, Trevor Lawrence. Il n'a jamais été proche d'accéder les attentes. Puis là, il sort un match cette semaine, 5 passes de toucher, un toucher au sol.
Ouais.
Comme tabarouette, sérieusement, c'est-tu. Mais encore là, tu sais, ce QB-là, moi, je ne l'aime pas du tout. Il a fait qu'est-ce qu'il a fait. On y enlèvera pas qu'est-ce qu'il a fait. Honnêtement, c'est extraordinaire. Par contre, j'ai besoin d'un deuxième match. C'est la même affaire.
Surtout contre les Broncos. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. T'sais, là, s'il arrive contre les Broncos, puis. À cause de Trevor Lawrence, je ne suis pas un believer des Jaguars. T'sais, j'étais moins un hater que j'étais envers les Colts toute la saison. Mais pour moi, les Jaguars, c'est un peu la même chose. T'sais, toute la saison, je n'y ai pas cru.
Mm-hmm.
Puis là, ils ont gagné des matchs serrés. Puis là, ils ont la cédule facile. Mais là, ils arrivent contre un gros match. Ouais. Leur QB vient d'avoir son meilleur match en carrière. Un des meilleurs matchs jamais joués d'un QB. Est-ce que... Les deux que leur QB a été chancelant toute la saison reviennent de leur meilleur match. Ça va être un bon match.
Ça va être vraiment.
Je m'attends à regarder. Moi aussi, t'es.
Mais je m'attends quand même à une victoire facile, relativement facile des Broncos. Par contre, si jamais les Jags arrivaient et allaient chercher ce match-là, je serais moins méga étonné que je l'aurais été là, un mois et demi.
Je suis d'accord avec toi.
Okay.
Ceux qui n'ont pas le visuel, je disais qu'après les Broncos, les Jaguars, il leur reste les Colts et les Titans. Fait que c'est là, de là la cédule quand même facile que l'osé parle.
Parce que les Colts ne sont pas les mêmes avec Philip Rivers.
Exactement.
Avec Danny Dimes. Là, l'autre chose, l'osé, j'ai envie de t'entendre ton opinion. J'en ai parlé un petit peu avec Marc-André, mais par rapport aux Bills. Tu sais, deux matchs, on dirait playoff, où est-ce qu'ils ont take-over alors que ça partait mal. Contre les Bengals, il y a deux semaines, puis là maintenant, ils l'ont fait aussi contre leurs rivaux de division, les Patriots, alors qu'ils perdaient 21-0 et même 24-3. Donc, j'ai vu ce match-là à partir du milieu deuxième quart, puis j'ai vraiment vu un switch momentum. Est-ce que toi, ça t'inspire que les Bills aient ces deux performances-là ou ça t'inquiète qu'ils partent trop en retard, puis ça risque de les rattraper en éliminatoire? Comment tu te sens par rapport aux Bills avec les deux dernières semaines?
Le plus honnête possible, moi, je trouve que c'est même pas une affaire de les deux victoires ou de la manière qu'ils ont gagné. C'est plus le premier comeback qui a été fait avec Josh Allen, qu'il y a takeover, les shows sol. Puis le match de cette semaine, Josh Allen a eu connu une bonne deuxième demi, mais au bout de la ligne, il n'y a même pas 200 verges par la passe. Il y a 40 verges au sol. Moi, ce qui m'a extrêmement impressionné, c'est la défensive des Bills. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, cette défensive-là, on ne l'a pas vu de la
picks,
saison.
Là, des beaux picks. Ouais. Là. C'était quand même.
Non, mais tu sais, pour te donner une chance, oui, l'attaque a fait 5 touchdowns de suite, mais au bout de la ligne, des courts terrains. Écoute, je ne mettrai même pas ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de je veux pas dire chialage envers les arbitres, mais en tout cas, il y a eu vraiment beaucoup de verges de punition dans ce match-là. Côté des passes, ça fait que ça a donné des terrains plus courts. Mm. C'est peut-être pour ça aussi que les statistiques sont plus basses. Un moment donné, tu fais un touchdown, ben tu as juste ça. 40 verges à faire.
Tu peux pas en faire plus, c'est ça.
C'est ça. Mais oui, Josh Allen a vraiment mieux joué en deuxième demi. Mais au bout de la ligne, son pourcentage de passes complétées, ses verges, c'est pas un match à tout casser. Moi, je trouve que le premier comeback, ils l'ont fait avec l'attaque. Le deuxième comeback, ils l'ont fait avec la défense. Ça, c'est encourageant. Ça, c'est sûr. Puis surtout que, comme les Bills, on ne sait jamais ce que la défensive va faire. L'attaque est comme up and down cette année. C'est pas constant à chaque game comme les autres saisons. Le fait que c'est arrivé de deux manières différentes, deux matchs quand même à haut pointage, puis ont été chercher les deux, c'est sûr que c'est très encourageant. Très encourageant pour les Bills.
Moi, ce que j'ai. C'est ça, j'aurais aimé savoir qui l'avait fait. C'est Milano, deux sacs, dont un pour aussi une grosse perte à un moment important dans le match où est-ce que les Patriots essayaient de faire une grosse séquence. Puis je pense qu'en deuxième et 8, et il a fait un sac, puis ça s'est rendu troisième et 18. Ben, tu sais, ils ont eu des moments. Tu sais, ils ont eu des trois sacs, mais des moments importants durant la deuxième moitié du match. Fait que, tu sais, puis on s'en parlait un peu. T'sais, la def des Bills va laisser aller beaucoup de points, mais il essaie de créer des revirements. Là, ça a été un force fumble, puis ça a été une interception, ce qui les a grandement aidé aussi. Mm-hmm. Mais quand il crée ces revirements-là, ça donne, on dirait, un souffle à l'attaque, puis on dirait qu'ils vont marquer des points sur les revirements créés par la défensive.
Exactement.
Puis quand ils n'ont pas de turnover, ils perdent les matchs. Mais quand la défensive crée des revirements, ils vont gagner ces matchs-là aussi.
Mm-hmm.
Fait que, c'est vraiment... La def n'est pas si forte, mais
elle a joué.
La défensive,
mais c'est facile de dire. Puis surtout, mettons, les gros fans de Josh Allen, facile de dire que la défense a donné 31 points, c'est l'attaque qui a gagné le match. Mais si tu as vraiment regardé le match, quand une bonne attaque, comme les Pats, comme Drake May, qui a une saison extraordinaire, qui est bien rodée, qui score des points à tous les matchs, arrive en première demi, puis score, puis whoop, soudainement, ils font pas de points ou presque en deuxième demi. Un moment donné, il faut que tu donnes à César ce qui revient à César. T'sais, la défensive, ils ont beau s'être fait scorer des points, comme toutes les équipes contre les Pats, mais ils ont tellement show up en deuxième demi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis j'ai entendu, je ne sais pas si c'était Dan Orlovsky ou en tout cas, j'ai entendu un analyste parler du fait que sur quatre séquences consécutives, le deuxième... Non, c'est pas vrai, pas sur quatre séquences, mais sur quatre set of downs de suite, le deuxième puis troisième essai, fait que sur huit jeux total, la défensive a montré aucun jeu pareil. Fait qu'un cover six, un cover four, un cover three, un cover zero, un full blitz, un half blitz, un safety blitz. Fait que ça a été tout des jeux complètement différents. Fait que tu sais, ça pour un corps surtout recrue, c'est peut-être la première fois qu'il voit un mix de tu sais, puis ça, c'est, j'imagine que c'est pas des choses que toutes les défensives doivent faire souvent, parce qu'à un moment donné, ça vient mêlant.
Il a dit la semaine passée, quand les Chiefs ont perdu le match, puis t'as dit, Chris, sors ton livre de jeu. Là, les Bills ont fait, on est contre les Patriots, on est en train de perdre le match, on va sortir tout ce qu'on a en défensive. Ouais. Tout notre livre de jeu def, on va le sortir parce que ce match-là, on doit aller le chercher.
Non, mais
pour notre survie éliminatoire, puis avoir peut-être aspirer à gagner la division. Ce match-là est crucial pour nous. Fait que là, ils ont fait comme on est all out. Puis comme tu as dit, il faut rendre à César parce que les Bills ont beau marquer des points. Pour rattraper, il faut que les Patriots en marquent plus des points ou limiter drastiquement les points. puis la défensive, ils ont fait ça. Ils ont extrêmement bien couvert le ballon. Ils ont empêché la course là, de Stevenson. Il n'a pas pu courir. Puis, dans le fond, les passes étaient vraiment bien défendues. Fait que chapeau aux Bills d'avoir stoppé les Patriots qui avaient le vent dans les voiles en première demi.
Mais en tout cas, je trouve ça très bon comme commentaire que tu viens de dire parce qu'on dirait que c'est exactement ça. T'sais, c'est un must-win game. C'est comme, ça te sert à quoi de garder ça pour le Super Bowl, pour le AFC Conference? Si tu te rends pas.
Tu as
besoin de ce match-là. C'est un match capital. Ouais. Monte-les, cette affaire-là, puis arrange-toi après ça, rendu où que tu vas être rendu. T'sais, tu veux te donner une chance de gagner, il faut que tu sortes ton meilleur game plan. Ton meilleur game plan que tu sers de côté, puis que tu pratiques à toutes les semaines, mais qu'il n'y a pas une équipe qui a vu. Mais là, c'est là qu'ils l'ont sorti. Puis honnêtement, chapeau à eux. Je les aime pas, mais ce qu'ils ont fait, ce match-là. Non, mais
c'est correct. Chapeau à eux. Je les aime pas, mais bravo, c'est fait. C'est
vraiment juste... Non, je suis pas devenu un fan des dimanches. Mais au contraire, je suis pas un fan, puis ça m'a impressionné. Donc, bravo.
Mm. Oui.
La seule équipe que j'aimerais qu'on jase là, de la NFC, parce que dans le fond, on a beaucoup encensé, dans le fond, là, les Sox, les Niners puis les Rams.
Je peux juste dire quelque
chose à dire sur le.
Je veux juste dire, dans le fond, pour moi, pour le AFC, là, les équipes qui sont là, c'est réglé. La seule affaire, c'est Jaguars, Texans. Il y en a un des deux qui va gagner la division, l'autre va être wildcard. Tu sais, ça va dépendre des matchs qui finissent l'année. Puis Steelers, Ravens, il y en a un qui va gagner la division, puis l'autre ne fera pas les éliminatoires. Tu sais, il n'y a plus rien d'autre. Tu sais, il y a du seeding par rapport à Chargers, Bills, mais tu sais, les équipes qui sont là, c'est réglé là, dans la AFC. Oui,
absolument.
Les Broncos ont fini premier. Les Broncos ont fini premier. Tu sais, c'est réglé. Là, c'est pas mal réglé. Il reste une couple de petites affaires, mais la AFC, c'est pas mal joué.
Oui, parce que là, Broncos, il y avait un match à Casey, mais là, on s'entend que.
Mais non, c'est fini.
Même avec, ça aurait été serré, puis il aurait pu l'emporter quand même.
Oui, mais le sang, c'est ça. Ouais. Avec Minshew, on oublie ça.
Ah, c'est fini. Moi, je ne sais pas, avant que tu amènes l'équipe que tu voulais parler du NFC, écoute, c'est peut-être celle que je vais amener, mais j'ai juste un commentaire à faire, puis je l'aurais fait dans le segment en rafale.
Oui.
Mais que je n'ai pas pu faire. La semaine passée, j'ai parlé à quel point que j'avais une inquiétude sur. Le rendement de Sam Darnold que les Seahawks gagnaient à chaque semaine de façon très facile, mais que le rendement de Sam Darnold m'inquiétait pour les mettre aussi haut, mettons, dans le power ranking. Ben là, on a eu une preuve cette semaine contre une équipe qui était pire, qui faisait pire que pitié. Ils ont tiré de l'arrière toute la game, ils ont passé proche de perdre. Ouais. Sam Darnold, il n'a rien créé. Fait que si j'avais des inquiétudes la semaine passée, ben là, c'est encore pire. T'sais, pour moi, là, les Seahawks, autant que la défensive est intense, jeune, elle a faim, pour moi, ça ne sera pas assez. Je ne vois pas comment que les Seahawks vont gagner. Et là, sans Devante Adams, je ne donne pas la victoire aux Rams facilement. Avant la semaine passée, j'aurais donné la victoire aux Seahawks. Là, je pense que je vais me pencher du côté des Rams au moment de nos picks.
Merci, moi aussi. Je change mon fusil d'épaule.
Je pense pas que ça va être facile sans Devante Adams. Par contre, la manière que Sam Darnold joue en ce moment, c'est très inquiétant. Fait que si jamais ils vont chercher la game demain, de toute façon, on en a déjà parlé, ils vont perdre contre les Niners. Niners vont gagner le bye la dernière semaine. Mais je vois pas comment que les Seahawks... Même si jamais finissent premier, je vois pas comment Seahawks va gagner un match en série avec le rendement de Sam Darnold.
Je suis d'accord.
Ouais, c'est un beau projet, ils sont jeunes, c'est cool, mais en ce moment, moi non plus, je le vois pas actuellement. Mm. Moi, l'équipe que je voulais parler, c'était pas les Seahawks, c'était vraiment, dans le fond, les Buccaneers. Tu sais, parce que là, on en a parlé un petit peu avant.
Ah ouais, c'est vrai.
J'en ai parlé un peu avec Marc-André. J'ai même dit, tu sais, vous arrêtez pas de me dire est-ce que Bucky joue, est-ce que Bucky joue pas. Mais Bucky, il joue depuis 3 semaines. Puis ils perdent, là, quand même. Là. Personne veut. Je sais, c'est pas juste Bucky.
Non, mais c'est pas juste Bucky. C'est pas juste Bucky.
Mais c'est juste toute l'attaque, le coaching staff.
Non, mais il mène par 14, il reste 10 minutes, puis il donne pas le ballon à Bucky.
100%.
Honnêtement, jeudi, là, j'étais chez mon ami, on checkait la game, puis j'étais en train d'à peu près arracher toutes les affaires qui étaient sur son mur. Honnêtement, il aurait pu me charger comme pour des dégâts. J'aurais détruit son sous-sol. Non, mais pour de vrai, écoute, on en a parlé des games qui étaient mal coachés, puis tout le kit. Ouais. Tu viens de perdre une game qui est inacceptable, je pense, à l'Orléans, il y a deux semaines. Tu as encore le lead, tu es chez vous, tu mènes par 14, ton gars, tu as donné le ballon. Écoute, Bucky, il a commencé la game, premier jeu, course de 11 verges. Deuxième jeu, passe captée de 11 verges. Fait qu'après deux jeux, il y avait 22 verges, 2 touches. Rendu au halftime, il y avait genre 10 touches. Essaye de concevoir quel genre de game plan que tu as de ne pas donner le ballon à ton meilleur gars. Puis en plus, là, il score. Il est où le jeu au sol?
Ah, c'est ça.
Baker, là, OK. À limite. T'es une attaque qui est. Tu sais, dans le temps que Casey était hot avec Tyreek Hill, les running backs, ils avaient beau mener par 30, Mahomes, il lançait le ballon. C'était ça l'attaque.
Ouais.
OK, fait que si on revient au premier mois et demi de l'année où ce que Baker, il était juste complètement fire, puis tu décides de lancer le ballon parce que ton kid, il est en feu, puis tu veux. OK, parfait. Mais là, depuis un mois et demi, Baker, il est pas bon.
Non, c'est ça.
Il est vraiment pas bon. Il lance des mauvais picks, prend des mauvaises décisions. Puis là, tu mènes par 14 contre une équipe beaucoup plus faible que toi. Tu es à domicile. Ton gars, il est hot. Ton running back, il est hot. Puis tu donnes pas le ballon. Hey, sérieux.
Non, ça n'a pas de bon sens.
Ouais, mauvaise interception en fin de match aussi.
Ah, c'est vraiment pathétique. Là. C'est vraiment rendu pire que pire. Puis,
le pire, c'est que
c'est rendu du over. C'est même pas du
overcoaching.
C'est White. C'est pire que ça.
Ouais.
Je sais pas si White s'est blessé, mais j'ai écouté le match semi à moitié. C'est comme drop out de temps en temps, mais j'ai écouté la fin. Rashid White, il y a une attempt pour 20 verges. Il n'y a pas de chaud ballon après ça le reste du temps. Fait que tu sais, comme tu parles de Bucky Irving qui finit avec 16 touch pour 60 verges. Tu as White qui a une seule course de 20 verges, pas touché au ballon du reste du match. On dirait, puis là, c'est comme le retour de Mike Evans, ils ont voulu le feeder, tu sais, encore une fois, pour qu'il mette des stats. On dirait, c'est comme s'il dit, tu vois, là, c'est dans 1000 verges encore, là. Mais.
Ah, mais ça, c'est une autre affaire, hein. C'est bon que tu en parles parce que, tu sais, White, au bout de la ligne, c'est un running back, plus de third down, puis plus comme. Il est plus là pour bloquer en troisième essai, puis ramasser des petites passes de vidange au dépanneur. Tu sais, ça, c'est plus son rôle. Puis Sean Tucker, que. Avant la blessure à Bucky, pas personne n'avait jamais entendu parler. Là, ce match-là, ils sont arrivés deux fois en dedans de la ligne de 5. Sean Tucker, il a eu toutes les reps comme running back. Il a fini la game avec 6 courses, 7 verges. Fait que t'as donné 6 courses en dedans du 5 à ton RB 28, qu'il faisait même pas partie du practice squad en début d'année. Tu n'as donné aucune rep à ton RB 1 qui est comme un des 5 meilleurs dans la ligue.
Mm-hmm.
Essaye! Sérieusement, moi je suis cave dans la vie, OK? Essayez de me expliquer moi.
Ouais, c'est ça.
Faites-moi des dessins, quelque chose.
Ouais. Puis le pire, c'est qu'après ça, Todd Bowles s'en va en entrevue, puis il pitch ses joueurs en dessous de l'autobus à la fin de la game en disant que c'est les joueurs qui n'ont pas respecté le game plan, puis que c'est de la faute des joueurs qui ont perdu. Comme ce coach-là. Ce coach-là ne reviendra pas l'année prochaine. Je suis convaincu qu'il ne revient pas l'année prochaine.
Honnêtement, depuis le départ de l'autre là, qui a gagné le Super Bowl avec Brady, là, qui avait sa sacoche, là, en tout cas.
Ouais. Bruce Arians.
Ah, c'est ça. Depuis que Bowles est là, j'ai toujours apprécié ce coach-là. J'appréciais comment il était calme dans des moments comme cruciaux. Tu sais, j'aime mieux un coach de même qu'un coach comme Sean McVay qui court 85 verges sur le sideline. Tu sais.
Puis que mais, son spotter juste pour le reculer un peu.
Ben oui, c'est ça. Pour qu'il embarque sur le terrain. En tout cas, c'est le meilleur job au monde, en tout cas, peu importe. Mais tu sais. Mais là, pour de vrai, avec tout on the line, puis c'est des erreurs. Puis encore là, si jamais ton QB est red hot, puis tu veux lui donner
un ballon à lui,
puis là, il te fait perdre le match parce qu'il lance des mauvais picks, ben tu vis avec, puis c'est correct.
Ouais.
Mais là, Baker, il joue pas bien. Tu regardes ses stats depuis un mois et demi, même voire jusqu'à deux mois, depuis semaine, genre 5 ou 6, ça va pas bien, Baker. Fait que comment tu peux. Pendant que tu devrais avoir un walk in the park, le match est fini. Là. Il reste 10 minutes.
Ouais.
Juste c'est juste
pour un peu compléter ton point, parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est frustrant d'avoir une équipe avec tous les éléments, bien partir comme ça, un peu fumble the bag. Parce que là, tu as tout ce qu'il faut pour avoir un bon seeding. Il y aurait plus facilement avoir 3 victoires de plus puis 3 défaites de moins. puis genre être, tu sais, cruise vers la fin de saison, puis être plus en confiance. Là, c'est extrêmement tendu dans une division faible avec, on dirait, une équipe de la Caroline qui ne veut pas vraiment faire les éliminatoires, mais sont comme, hey, si ça ne vous tente pas, on est là. Mais on dirait, eux-mêmes, ça ne leur tente pas plus. Qui perdent des matchs.
C'est correct parce qu'ils étaient supposés même pas être proches au début
de l'année.
Exact.
C'est la fin du match. Mais mon point, c'est, je pense que c'est vraiment à cause juste du coach parce que, tu sais, une équipe contre les Seahawks, même si le coach, il est jeune puis il est nouveau, il reste que, il semble une équipe bien coachée, qu'on ne fait pas beaucoup d'erreurs de coaching. Des fois, on dit, on ne target pas assez ton meilleur wide receiver. Tu sais, ils se sont ajustés, ça va mieux. On dirait que j'ai plus confiance au coach des Seahawks, même s'il est jeune, qu'en
Todd Bowles.
Qui... 100%. Ah, c'est des équipes bien coachées, c'est eux qui vont se rendre loin. Mm-hmm. Les Rams, je suis en confiance avec eux autres.
Écoute, Julien.
Les Bears, je suis en confiance avec eux autres.
Tu as tellement raison, parce que dans NFL, à moins... Écoute, si jamais il arrive des fumbles, puis qu'il arrive des turnovers, ça change toujours le script, même si tu mènes par X. Mais de perdre un match comme ils ont perdu jeudi.
Oh non, c'est inacceptable. C'est, 19 flags contre Atlanta.
C'est même pas. Hey, j'ai oublié d'en parler. Quoi, tu mènes par 14, ton wide receiver 1 est revenu, il a 130 verges, tu scores toute la. Écoute, l'autre équipe a un record. Ben, depuis 1970, c'est le plus grand nombre de flags, 19 flags. T'es à domicile, tu mènes, il reste 10 minutes. T'as le ballon.
Non,
comment tu fais ce match-là? C'est impossible. C'est impossible de
perdre. Le pire, ça, l'osé, dans les deux touchés qu'on marquait, ils sont nés par deux points et ils les ont pas eu. Fait que, tu sais, s'il y avait juste eu, même pas oublié le placement, là. S'il avait juste pris les un point, tu sais, Atlanta aurait fait juste un 28-28. Atlanta perdait par deux points parce que deux fois, ils sont allés par deux points et ils l'ont pas eu. Fait que là, je suis comme, OK, les Falcons font exprès de perdre le match. Ben non, la dernière séquence, ils marquent un placement. Ils remontent le terrain. Ils voulaient gagner malgré tout. J'en revenais pas. À la limite, tu fais un point, puis après, la deuxième fois, tu vas pour la victoire. On va aller à égalité, puis en prolongant tout ça.
Ils ont gagné
en temps réglementaire par un point.
Ça, là, c'est depuis l'année passée que pas toutes les équipes le font, mais... Parce que là, c'est encore un autre Next Gen Stats, puis blablabla.
C'est ça.
Qui ont montré que, normalement, les statistiques d'à peu près toutes les équipes sont meilleures que 50% dans le Two Points Conversion. Fait que si t'es down 14 points au dernier quart, puis tu scores un touché, tu y vas pour deux. Parce que là, si tu scores le 2, après ça, avec un point, tu peux gagner le match. Puis si jamais tu le manques, puis tu scores un touché, ben vu que tout le monde est en haut de 50%, ils prennent pour acquis que tu vas quand même leur faire le deuxième coup. Fait que ça, là, c'est une nouvelle. Ça, c'est depuis une tendance depuis l'année passée.
Puis, mais ils n'ont pas les éléments, les Falcons.
Non, mais. Non, mais. Moi, ce que je veux dire, c'est que depuis cette tendance-là, puis qui est vraiment comme de quoi que la plupart des équipes ont commencé à faire, de tous les matchs que moi, j'ai vu les équipes faire ça.
Ça n'a jamais marché.
C'est tout de la merde.
Ouais.
C'est tout de la merde. Il n'y a pas personne qui a réussi à faire 2 puis 1.
C'est ça, je suis d'accord.
Je ne me rappelle pas d'avoir vu une équipe avoir gagné le match en faisant 6-2, 6-1. À la limite, j'ai vu 6-0, 6-2, puis taillé quand même.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais j'ai vu beaucoup plus de 6-0, 6-0.
Oui, c'est ça.
Mais bravo, les coachs, continuez.
Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord.
Encore là, le petit gros chez eux, lui, il voit tout ça, mais eux autres, ils ne le voient pas. Ont payé des centaines de millions.
Il y a un MBA, qu'est-ce que je te dis? Il a eu son MBA. Toi, as-tu un MBA, ça. Non?
tu sais pas, toi?
Tu sais pas, hein?
Tu sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Ouais. OK, maintenant, on va voir le tableau de prédictions. Est-ce que c'était une bonne semaine ou non? Qu'est-ce que
c'est passé
là, dans ce petit résumé-là, Marc?
Semaine plus difficile pour tout le monde, sauf Marco. En fait, Marco, lui, est red hot. J'ai rajouté parce que sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire des petits sondages auprès des auditeurs. Les pourcentages que vous voyez là, c'est les pourcentages que je prenais à l'heure où le match débutait parce qu'on a des petits coquins qui vont voter après que le match soit fini. Fait que, tu sais, mettons... Miami-Pittsburgh, c'était 61%, mais j'ai regardé ce matin le résultat du sondage, puis c'était rendu genre 70% à Pittsburgh. Fait que il y a des gens qui sont allés voter après la game. Mais fait que j'ai pris le pourcentage comme au début de la game.
Hey, hindsight 2020, ça se manque jamais.
Bravo, man.
Monday morning quarterback. Là.
Voilà. Fait que, voici à quoi ça ressemble. Les auditeurs sont 1-3. Donc, il y a juste le match de Buffalo qui ont eu de bons. De notre côté, Marco 12-4, Julien 9-7, moi 8-8, Lozé 7-9, et c'est Marco qui prend les devants, dépasse Lozé avec son excellente semaine.
Je voulais juste ajouter, j'ai un pool que c'est against the spread. À chaque semaine, il faut prendre toutes les games.
Selon le spread, c'est ça.
Quelle barre, puis on met une conviction. J'ai commencé la semaine avec une mauvaise prédiction, deux bonnes. Fait que j'étais 2 et 1, j'ai fini 2 et 14.
Oh, ouais. Seigneur!
Moi, je fais très bon.
Très bon. C'est ça. C'est juste victoire défaite ici, là, encore plus facile. Mais dans le fond, c'est rattrapable, j'y crois. J'ai quelques matchs d'écart.
Oui, c'est jouable pour un peu tout le monde, là, encore. Là, en 3 semaines, c'est jouable.
Puis l'affaire qui était fou, c'est que pour le lead, c'était est-ce que Miami ou Pittsburgh l'emporte dans la dernière semaine? Parce que nous, on savait que vous étiez à égalité avant. Fait que le vainqueur, c'était Pittsburgh. Miami allait trancher, qui allait prendre le lead. Puis Marco reprend le lead à ce moment-là.
Avec Pittsburgh,
c'est 3 semaines pour déclarer un gagnant. Puis à un match,
même, là, Marco n'est pas là, puis il n'y a pas dans les choix, fait qu'il perd.
Il perd ses 16 games la semaine prochaine, je pense. Il est 0-16.
Facile, facile. Il y a 24 heures, OK? T'as 24 heures, Marco. Ben, on va se laisser pour le podcast. On fait un autre court épisode pour parler de la semaine prochaine, de nos prédictions. Et merci d'oser d'être joint en cours de route. Là. Ben content de te voir ici.
Petite parenthèse, j'espère que le monde peut lire sur les lèvres parce qu'on t'entendait pas bien. Ben.
Ouais, quand on parle la musique des fois, un peu.
Oh, quand on parle la musique, ben oui.
Ah, c'est ça l'affaire.
C'est quoi? Marc-André va mettre des sous-titres.
C'est ça. Voilà, j'ai plein d'heures pour faire du montage.
Ah oui, c'est un peu.